même un retour. Il y a.
Vous avez raison. Il y a 15 ans, on était en gros encore sous les gravats de la chute du mur de Berlin. Bon, et même si on. J'appartiens à une histoire et à une tradition qui critiquait les régimes d'Europe de l'Est. Les gravats nous sont retombés aussi sur la tête, malgré tout. Et il n'y a plus de mots innocents. Et même aujourd'hui, hein, on en est à raccommoder des mots parce qu'on n'invente pas un vocabulaire ex nihilo. D'ailleurs, révolution, socialisme, communisme, il n'y a pas de mots qui sont sortis innocents du XXe siècle. On est obligé de les retravailler. Ceci dit, vous avez parfaitement raison. Il y a une enquête qui est faite depuis maintenant 5 ans par une jeune chercheuse en sciences politiques, Florence Josua, sur les nouveaux militants, notamment sympathisants d'Olivier Besancenot depuis 2002. Et par exemple, ce qui les rebute le plus dans le vocabulaire, c'est pas communisme. Curieusement, on aurait pu croire, parce que l'histoire, l'Union soviétique, le goulag, c'est déjà loin. Et communisme, il y a une idée de communauté, il y a un idéal, il y a une histoire, le 19e siècle, etc. En revanche, il y a beaucoup plus de difficultés avec le mot révolution, parce qu'il a été associé, soudé, dans l'esprit des gens, je ne dis pas dans la réalité, à une idée de violence. Et aujourd'hui, d'un monde hyper-violent et de violence déchaînée, guerrière, sociale, quotidienne, il y a effectivement une angoisse face à la violence. Et le mot révolution éveille cette idée de violence, même si, de mon point de vue, les grandes violences dans l'histoire sont plutôt venues des contre-révolutions que des révolutions. La prise de la Bastille n'était pas un bain de sang. En revanche, la marche des troupes de Brunswick sur Paris ont déchaîné et les violences et la terreur.
Oui, mais c'est cette peur de la révolution, on avait reçu ici Eric Hobsbawm, l'historien britannique, et qui a écrit des textes sur la commémoration de la Révolution française de 1989 et qui décrivait cette commémoration qui, pour la première fois dans l'histoire de la Révolution française, était une commémoration qui justement mettait toute la violence en avant, cet épouvantail du sang et de l'horreur et de la guillotine en avant, pour vider la Révolution de tout intérêt, avec, vous le savez mieux que moi, François Furet, qui présidait idéologiquement, disons, cette commémoration.
Oui, ben il y a eu à l'époque un film épouvantable à mes yeux, hein, en deux parties. La première était faite par Robert Enrico, bon, était à peu près présentable. La seconde, je ne sais plus quel était le réalisateur britannique, mais c'était une succession de têtes coupées et dégoulinantes. Bon, c'est l'image qui était donnée, c'est-à-dire la révolution, c'est la terreur, sans aucune explication ni contexte, etc. Et effectivement, Hobsbawm a raison. Moi, je m'étais beaucoup intéressé aux cérémonies du bicentenaire. Ça a été, finalement, la réconciliation festive sur le dos de la Révolution, en réalité. Hein. C'est resté Jean-Paul Goud. C'est une célébration thermidorienne et girondine. Donc, où il reste plus grand-chose de la Révolution, en réalité. Mais tous ces discours, ces images ont travaillé l'inconscient collectif, incontestablement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'y résigner, mais ça veut dire que on perçoit le monde à travers des mots, et donc les mots induisent des pratiques, et qu'il y a une bataille dans le langage, ça j'en suis convaincu.
Et François Furet disait à l'époque, nous sommes condamnés à vivre dans le monde dans lequel nous vivons.
D'ailleurs, c'est la conclusion de son livre « Le passé d'une illusion », mais qui est une conclusion désespérée, désespérante. En gros, oui, c'est la fin de l'histoire, c'est le capitalisme, point. Et c'est pas le meilleur des mondes possible, même pour François Furet, paradoxalement.
Alors, Daniel Ben Saïd, on continue avec ce gros bouquin qui s'appelle « Éloge de la politique profane ». Je dis gros par l'ambition, gros par le travail, gros par les idées, imposant, impressionnant. Et vous commencez, ça s'appelle « Éloge de la politique profane », vous allez me dire pourquoi le titre, mais vous commencez par un constat, après ce qu'on s'est dit sur François Furet, vous commencez par un constat assez consternant quand même, de notre époque, de notre aujourd'hui.
Ah oui, en fait, je veux pas dévaluer le pamphlet sur Bernard-Henri Lévy, mais ça, c'est un travail, disons. C'est l'aboutissement de 2 ans, plus ou moins, de travail, pas continu. Et on pourrait dire que le petit pamphlet sur Bernard-Henri Lévy, c'est les travaux pratiques. Là, il y a le grand angle d'un côté, puis le microscope de l'autre. Il y a un rapport entre les deux qui est d'ailleurs dans le titre. Hein. D'un côté, c'est le nouveau théologien, de l'autre côté, c'est la politique profane. Donc, l'idée, justement, c'est que les catégories dans lesquelles on a pensé et pratiqué la politique, et même les politiques depuis le XVIIe ou XVIIIe siècle, de citoyenneté, de souveraineté, de